Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 23 mai. Aujourd'hui, on va parler de la grève qui sévit une fois de plus sur les antennes de Radio France et France Télévisions. Une grève pour protester contre la fusion de tous les services d'État, donc de communication. On va aussi faire un retour sur le rassemblement qui a eu lieu pour la Palestine ce mardi à Ganges, avec quelques prises de parole un petit peu justement un peu plus approfondies, qui sortent un petit peu de la dichotomie des fois de ce qu'on peut entendre dans les grands médias et dans les flashs. Et puis on va aller faire un petit tour vite fait, prendre des nouvelles du monde sauvage, notamment au Mexique ou au Japon, avec des espèces animales encore menacées. Et avant tout cela, eh bien, je vais vous transmettre le lien d'une pétition, et surtout le texte qui va avec. Une pétition qui vient en soutien à la famille, une famille géorgienne qui habite sur Saint-Hippolyte-du-Fort, la famille Pakuridze, à savoir Gourami, Miranda et leurs enfants. Il y aura un rassemblement déjà ce vendredi 24 mai, donc demain, au marché de Saint-Hippolyte à 11h, autour d'eux, puisqu'ils sont donc menacés d'expulsion. Le collectif tient à exprimer son soutien et à informer la population sur ce qui se passe. Une pétition est en ligne depuis le 15 mai sur change.org et elle a déjà 2800 signatures à ce jour, donc vous pouvez aussi y apposer la vôtre si vous le souhaitez. Voici ce qu'on lit donc sur cette pétition qui est destinée à M. Jérôme Bonnet, le préfet du Gard, qui est donc responsable de l'avis d'expulsion de cette famille géorgienne. Non à l'expulsion de Miranda, Gourami et leurs trois enfants. Aujourd'hui, nous, habitants et professionnels du territoire, nous mobilisons pour demander au préfet de réexaminer leur situation et de changer sa décision. Gourami, Miranda et leurs enfants sont arrivés en 2018 à Saint-Hippolyte-du-Fort. Ils sont connus de tous dans la ville et dans les villages alentours. Ce couple a quitté leur Géorgie natale parce qu'ils étaient menacés. Ils ont fait le choix de ce difficile parcours d'exil pour protéger leurs enfants. Nous sommes nombreux à avoir croisé leur route. Sont citées notamment les actions de Gourami et sa jovialité, toujours prêt à rendre service, qui sait tout faire et particulièrement cuisiner de délicieux plats géorgiens que vous pouvez retrouver des fois sur des étals des marchés ou des événements festifs. D'ailleurs, il avait fait la cuisine pour Radio Escapade lors d'un concert qu'on avait fait à la Fête de la Musique il y a 2 ans, je crois. Sinon, il s'investit auprès de la Croix-Rouge, des services sociaux ou des associations locales qui font aussi appel à lui comme interprète, notamment pour accueillir les familles ukrainiennes. Sa femme Miranda, musicienne, joyeuse, très active, chef de chœur, appréciée pour ses talents de chanteuse, partagée au sein de la chorale Haïti, qui se produit régulièrement dans les événements culturels de la région et qui vient de passer avec succès un diplôme d'État en langue française. Donc des parents aussi d'élèves extrêmement impliqués et leur soutien à l'école va bien au-delà de l'intérêt de leurs propres enfants. Continue donc ce texte de soutien. On y parle de la scolarité de leur fille plus âgée qui suit avec succès sa scolarité en seconde au lycée à Alès et qui souhaite devenir infirmière. Le petit garçon de 9 ans qui continue lui aussi sa scolarité en obtenant plein de louanges de ses professeurs. Et enfin, la petite dernière, Martha, qui elle est née en France l'année dernière, en 2023. Des enfants qui s'épanouissent dans une famille aimante joyeuse, qui donne en exemple honnêteté, courage, respect et bienveillance. Tous parlent couramment français. Voilà, continue donc cet éloge dans le texte qui circule avec la pétition. Et les signataires expliquent être sidérés par l'inhumanité de la décision de la préfecture. Et se demande comment on peut expliquer qu'une famille qui vit depuis 6 ans sur le territoire et qui est donc particulièrement bien intégrée, vous l'aurez compris, puisse être aujourd'hui rejetée, même si ça ne fait pas partie des critères Mais c'est sûr que ça rajoute un petit peu d'amertume à cette décision. Ils sont scandalisés par la décision du préfet du Gard de refuser un titre de séjour à cette famille géorgienne qui risque d'être expulsée. Voilà une petite pétition à retrouver donc sur le site change.org, signée du comité de soutien de la famille. Et pour compléter cette info, puisqu'ils sont menacés d'être renvoyés en Géorgie, certainement pour la raison qu'il n'y a pas de guerre, notamment en Géorgie, je suis allé faire un petit tour un petit peu vers les dernières actualités sur France Info, voir ce qu'on disait de la Géorgie. On parle des manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines et du Conseil de l'Europe qui vient de demander l'abrogation de cette loi sur l'influence étrangère. Une des commissions donc, de cette institution strasbourgeoise estime en effet que les mesures prévues par la loi ne correspondent pas aux exigences de légalité, de légitimité, de nécessité dans une société démocratique et de proportionnalité. La loi sur l'influence étrangère que certains qualifient de loi pro-russe et qui vient donc servir à juguler les médias et les voix dissidentes est donc récriée par tous et notamment par la population locale qui s'est manifestée il y a deux semaines dans les rues de nombreuses villes du pays. Dans un document donc, a été publié ce mardi, le Conseil de l'Europe recommande vivement à Tbilissi d'abroger cette loi. Son adoption au Parlement a suscité donc des manifestations massives, je vous le disais, et selon une de ces commissions, la Commission européenne pour la démocratie par le droit, qu'on appelle la Commission de Venise, explique que les restrictions qui seraient imposées par cette loi au droit à la liberté d'expression, d'association et au respect de la vie privée, ces restrictions sont donc incompatibles avec les conditions strictes établies par la Convention européenne des droits de l'homme. Et ces restrictions, donc, avec cette loi sur l'influence étrangère, ne répondent pas, on le disait, aux exigences de légalité, légitimité ou nécessité d'une société démocratique. La Commission de Venise regrette donc aussi les manières dont cette loi a été adoptée, et notamment le fait que la procédure a donné lieu à des réactions massives dans le pays et n'a laissé aucune place à un véritable débat ou à une consultation significative. Ce projet de loi donc a été adopté le 14 mai. Il est porté par le parti Rêve géorgien et le gouvernement. Et il s'inspire de la législation qui est en vigueur en Russie pour réprimer ses opposants. La loi prévoit d'imposer à toute ONG ou tout média qui recevrait plus de 20% de son financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère et de se soumettre à un contrôle administratif. Ça inclut donc de nombreux médias qui pourraient avoir par exemple des antennes sur place ou des ONG qui auraient aussi une antenne sur place. Pour le Conseil de l'Europe, cette loi a pour effet objectif de risquer de stigmatiser, de réduire au silence ou finalement d'éliminer les associations et médias qui reçoivent ne serait-ce qu'une petite partie de leurs fonds de l'étranger. Et d'autant plus que le risque est grand que ces associations ou médias concernés soient justement ceux qui critiquent les autorités et que leur élimination nuise à un débat public ouvert et informé. En effet, s'ils ne reçoivent pas de financement de leur gouvernement ou de l'État sur place et qu'ils vont le chercher ailleurs, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne servent pas la même soupe que les autres. Au lendemain de ce vote, en tout cas, l'OTAN, la Commission européenne et l'ONU ont également condamné cette initiative du gouvernement. Le vote de ce texte aura un impact négatif sur le processus d'adhésion de cet État à l'Union européenne, soulignait notamment Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. La Géorgie est en effet officiellement candidate à l'entrée dans l'UE depuis le mois de décembre 2023. Elle aspire également à rejoindre l'OTAN, dont la porte-parole a dénoncé cette mesure qui l'éloigne de son intégration européenne et euro-atlantique. Alors la présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili, elle est plutôt pro-européenne et donc en conflit ouvert avec le gouvernement et ce parti au pouvoir, Rêve géorgien, devrait mettre son veto à la nouvelle loi. Mais justement, le parti Rêve géorgien assure avoir assez de voix au Parlement pour passer outre le veto donc, de la présidente. À Montpellier, ce mardi 21 mai, c'est le conseil d'administration de l'université Paul Valéry qui a acté le passage donc, de l'université en établissement public expérimental, ce qui pourrait à terme la faire sortir du code de l'éducation, en tout cas selon le SCUM, syndicat de combat universitaire montpelliérain, qui a bloqué la présidence pour s'opposer à ce vote. C'est dans les colonnes du journal en ligne Le Point avec un G qu'on lit cette cet article. Un vote du conseil d'administration a donc eu lieu ce mardi avec une majorité de 21 voix contre 4 voix et 6 abstentions et il transforme l'université donc en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental qui s'appellerait désormais Université de Montpellier Paul Valéry. C'est un changement de statut donc assez subtil autorisé par une ordonnance de 2018. Et il va donc fusionner l'ancienne Université Paul Valéry Montpellier 3, ça c'était son nom, avec également l'ENSAM, qui est l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, et le CIMM, le Centre International de Musique Médiévale. Pour le syndicat universitaire SCUM, qui avait déjà lancé avec d'autres syndicats étudiants une pétition pour s'opposer à cet établissement public expérimental, tous ces projets s'inscrivent dans une dynamique locale et nationale de mise en compétition des établissements d'enseignement supérieur. C'est pourquoi le syndicat a décidé de bloquer le bâtiment de la présidence et de séquestrer le conseil d'administration pour montrer son mécontentement. Ce qui nous inquiète, disent ces étudiants syndicalistes, c'est que ces établissements publics expérimentaux ont plus de liberté localement et qu'ils peuvent sortir du code de l'éducation. Ce code, c'est celui qui protège actuellement les droits des étudiants. C'est Mathéo, le porte-parole du SCUM, qui l'explique aux journalistes. Comme la fac est en déficit, dit-il, on a peur de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants, ce qui est donc qui fait partie des droits, donc qui risque d'être menacé par ce changement de statut. Mais surtout, les étudiants craignent également que ce passage en établissement public expérimental soit au final un moyen pour l'université de s'insérer dans une logique de financement de la recherche par des appels à projets, une dynamique qu'on retrouve d'ailleurs sur tout le territoire national. Et cet étudiant explique, si les profs passent leur temps à remplir des appels à projets, on a peur qu'ils délaissent leurs étudiants. Et le syndicaliste ajoute que maintenant que la décision a été votée, même si nous nous y sommes opposés, nous allons veiller à ce que les statuts de la fac ne soient pas modifiés lors d'un conseil d'administration.
Oh, c'est quand même bien fait. Oh là là.
Et on reste avec les syndicats, mais cette fois-ci de la presse, puisque l'ensemble donc des syndicats des salariés de France Télévisions, Radio France, France Média, Monde et l'INA, des archives, eh bien tous ces syndicats appellent à cesser le travail donc aujourd'hui et demain, au moment où les députés sont censés débattre d'un projet de fusion de ces sociétés. En tout cas, quand j'ai pris la voiture ce matin, France Inter diffusait de la musique. À l'appel unanime donc de ces syndicats, les salariés des quatre sociétés s'apprêtent à exprimer massivement leur désapprobation devant la volonté du gouvernement de les réunir dans ce qui serait une entreprise unique. Selon le texte, en effet, France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA seraient chapeautés par une holding dès le 1er janvier 2025, là celui qui arrive, avant un an plus tard d'être fusionnés. C'est un projet de loi qui est porté par Rachida Dati et qui doit normalement être examiné à l'Assemblée, donc aujourd'hui et demain. Mais un vote solennel est d'ores et déjà programmé pour le 28 mai et une deuxième lecture au Sénat le 19 juin. Je ne dis pas que je suis contre ce projet, je dis que je suis effaré par l'opacité qui l'entoure. Ça, ce sont les mots de Sonia Devillers, présentatrice de l'interview de 7h50 sur France Inter. Elle et plus de 1100 salariés de Radio France donc, ont signé une pétition qui a été publiée hier par le journal Le Monde. Une pétition unique en son genre, autant que par son ampleur. Vouloir fusionner tout l'audiovisuel public nous semble démagogique, inefficace et dangereux, condamne le texte, qui est approuvé aussi par le présentateur de la matinale de France Inter, Nicolas Demorand, et aussi, par exemple, Rebecca Manzoni, Guillaume Erner ou Nagui pour les voix les plus connues de France Inter. Vous l'aurez compris, ce n'est pas donc la branche la plus extrémiste de l'antenne qui s'oppose aussi à cette fusion. D'ailleurs, un élu CGT à Radio France commente que depuis plus de 30 ans qu'il est dans la maison, dit-il, je n'ai jamais senti les gens aussi unis dans une même mobilisation. Ça dépasse tous les clivages qu'il peut y avoir entre différents métiers, opinions ou syndicats. Les syndicats, justement, s'inquiètent de l'absence de garantie, autant en termes d'indépendance éditoriale que de budget. Ce projet de fusion, c'est la mort de Radio France, pas de radio, mais de Radio France telle qu'elle existe aujourd'hui. Assène par exemple Lionel Thompson, qui est donc syndicaliste aussi. Dans le contexte de 2027, avec une élection potentiellement chaotique, je crains qu'on offre sur un plateau au futur président de la République un audiovisuel public fusionné et malléable, anticipe aussi Célia Quilleret. En parallèle, les équipes de France Inter sont en ce moment, vous le savez, aux prises avec la direction de la Maison Ronde sur d'autres sujets, hein, celui de fameux Guillaume Meurice. La semaine prochaine, il sera convoqué pour un entretien disciplinaire qui pourrait aboutir à la rupture anticipée de son contrat. Une procédure qui a aussi mobilisé une partie des équipes pour défendre la liberté d'expression à l'antenne. Ce sont deux combats différents, mais que nous devons mener de front, explique une syndicaliste présente sur place. Côté France Télé aussi, l'intersyndicale table sur une forte mobilisation pour ces deux jours, qui devrait se traduire à l'écran. Ça, je ne sais pas, vu que j'ai pas la télé, vous m'en donnerez des nouvelles. Les syndicats appellent à un retrait d'un projet jugé trop précipité. Et là, on parle de 16 300 salariés en équivalent temps plein, et plus de 20 000 si on ajoute tous les collaborateurs dont l'avenir est en jeu, explique Pierre Mouchel, secrétaire général du SNRT-CGT France Télévisions. L'autre question qui revient en boucle sur cette fusion, c'est pourquoi maintenant ? Nos entreprises fonctionnent bien, se projettent vers l'avenir, alors pourquoi ce gâchis d'énergie dans un projet bancal, résume Antoine Schussville, qui est du SNJ, le syndicat national des journalistes de France Télévisions. Pardon. Prise de vitesse par ce calendrier qui semble accéléré du gouvernement, les organisations représentatives du personnel espèrent donc qu'un mouvement massif pourrait encourager les voix dissidentes à l'Assemblée, ce qui pourrait empêcher le texte d'être adopté. On veut aussi que les députés votent en leur âme et conscience. Si le texte passe, les salariés retiendront les noms des fossoyeurs de l'audiovisuel public, assène le représentant CFDT. C'est un article à retrouver dans les colonnes de Télérama, qui fait souvent une veille avec assez d'acuité sur tout ce qui concerne les médias.
C'était vraiment très intéressant.
On va parler rapidement à travers ces deux brèves piochées sur reporters de menaces sur des espèces animales emblématiques. Tout d'abord, c'est au Mexique qu'on apprend que la chaleur est telle que les singes hurleurs tombent des arbres. Comme des pommes d'ailleurs. C'est le Guardian qui alerte sur ce drame. Dans l'état de Tabasco, au Mexique, au moins 83 primates ont ainsi été retrouvés morts, assaillis par les températures extrêmes. Ce mois de mai, en effet, était particulièrement chaud au Mexique. Au milieu du mois, 10 villes, dont Mexico, ont enregistré des records de température pour la saison, ce qui a provoqué des coupures de courant à travers le pays. À Mexico City, où on est en altitude, le mercure a atteint les 34,3 degrés. À Ciudad Victoria, la température a atteint le record de 47,4 degrés. Depuis le mois de mars, la chaleur a coûté la vie à au moins 26 personnes dans le pays. Et c'est donc le reste du monde vivant qui paye aussi son lourd tribut à la chaleur. Les singes morts pourraient peut-être se compter par centaines, selon des experts vétérinaires. Quelques-uns ont pu être secourus par les habitants. Ils souffraient de fièvre et de déshydratation. Ils étaient aussi mous que des chiffons, explique un vétérinaire au Guardian, donc. Et il attribue bien évidemment leur mal à ce fameux coup de chaleur. Une chaleur couplée à la sécheresse, au feu de forêt et à la déforestation qui diminue toutes les ressources en eau et en fruits dont ont besoin ces singes. Les singes hurleurs sont une espèce sentinelle, poursuit-il. Le fait qu'ils souffrent autant nous dit quelque chose de ce qui est en train de se passer avec le changement climatique. Et sous les océans, ce sont les baleines qui risquent, elles, d'être menacées, mais là, même pas par les changements climatiques, mais carrément par la pêche, tout simplement, puisque le Japon a lancé, ce 21 mai, son nouveau grand navire baleinier, le Kangai Maru, un abattoir de baleines sur les flots. La construction de ce baleinier a coûté d'ailleurs 44 millions d'euros. C'est un bateau usine, capable de conditionner et de stocker la viande de baleine à bord. Il espère capturer et tuer environ 200 mammifères marins d'ici 2024. Il succède ainsi au Nishin Maru, qui lui a été mis à la retraite en 2023, après plus de 30 ans d'activité. Le Japon, c'est l'un des trois derniers pays à chasser la baleine, avec la Norvège et l'Islande. Le Japon chasse actuellement trois espèces différentes, le rorqual de Bride, la baleine de Mink, et le rorqual CI. Alors la baleine de Mink et le rorqual de Bride font l'objet d'une préoccupation mineure dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le rorqual CI, lui, est clairement classé en danger. Au début de ce mois de mai, le Japon a exprimé son souhait de chasser également le rorqual commun, qui est considéré aussi comme vulnérable par les associations et les autorités de défense de la faune aquatique. Cette chasse à la baleine est le fruit d'une tradition qui remonterait au moins au XIIe siècle et la consommation de viande est pourtant interdite par le Japon, qui assure qu'elle a été une source de protéines cruciale pour la population après la Seconde Guerre mondiale. Cette viande est cependant délaissée progressivement donc, par les consommateurs au profit d'autres viandes. Dans les années 60, les habitants du Japon mangeaient environ 200 000 tonnes de baleines par an, contre aujourd'hui seulement 2 000 tonnes. Dans un communiqué, l'ONG Sea Shepherd France a indiqué qu'il serait aux côtés du capitaine Paul Watson, c'est la figure historique de Sea Shepherd, connu pour lutter contre la chasse à la baleine, pour tenter de barrer la route aux navires usines, et ce, dès l'hiver prochain.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et on va terminer ces nouvelles du monde avec quelques sons glanés donc à Ganges ce mardi à 18h lors du rassemblement en soutien à la Palestine. Avant cela, quelques infos sur ce qui va se passer du côté du Montpellier, hein, puisque cette fin de semaine est très chargée et sous le signe donc du soutien au peuple palestinien. Cela, rappelons-le pour le contexte, alors que le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a demandé ce lundi l'émission de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense Yoav Gallant et également trois responsables du Hamas. Israël ne décolère pas aujourd'hui après la décision de trois pays européens de reconnaître l'État de Palestine en pleine guerre entre son armée et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. Tôt jeudi, une équipe de l'AFP a fait état de frappe aujourd'hui dans le secteur de Rafah, au sud de l'enclave, tandis que des témoins relevaient d'intenses bombardements à Gazaville, dans le nord du territoire déjà ravagé par plus de 7 mois de guerre sans répit. Si on revient sur ces trois pays, ce sont l'Espagne, l'Irlande et la Norvège qui ont donc annoncé hier leur décision de reconnaître ensemble un État palestinien dans l'espoir d'entraîner d'autres pays à faire de même, alors que la solution à deux États semble, selon Madrid, en danger. En effet, cette création d'un État palestinien viable apparaît comme une perspective très incertaine en raison notamment de l'absence de pourparlers dans ce sens et aussi en raison de la colonisation juive en Cisjordanie occupée. Malgré tout, cette reconnaissance comme un État est considérée comme une victoire diplomatique pour l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, alors que l'État de Palestine est reconnu, selon l'autorité palestinienne, par 142 des 193 membres, États membres de l'ONU, mais principalement des États non occidentaux. C'est donc trois pays européens là, qui font cette annonce, et suite à cela, la Colombie a confirmé, elle, son projet d'ouvrir une ambassade à Ramallah, ville de Cisjordanie occupée où siège justement l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. On part à Ganges donc pour écouter quelques prises de parole, il y en a eu beaucoup et c'était long mais j'ai essayé de sélectionner un petit peu des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui permettent un regard décalé, qui montrent notamment les formes de résistance qui existent aussi en Israël ou sous d'autres perspectives en Palestine, avec notamment des extraits d'un texte proposé par des militants queer palestiniens.
J'essaye de parler plus près. Donc je rappellerai que dans l'autodétermination des Palestiniens va de pair avec celle des Israéliens. Et que donc dans les débats pour sortir du conflit, on a beaucoup parlé d'une solution à deux États. Et en tant qu'anarchiste, pour nous, l'État, c'est jamais une solution. La pensée anarchiste, donc anti-étatiste, est très ancienne, y compris dans la culture yiddish, et représentée par des penseurs reconnus comme Noam Chomsky ou Murray Bookchin. L'idéal anarchiste a directement influencé la création de kibbutz en Palestine, bien avant l'arrivée des Israéliens en 1947, dès le début du XXe siècle. L'objection de conscience, même si elle n'est pas reconnue en Israël, fait l'objet d'un mouvement qui s'appelle les Refusniks. Il y a 20 ans, un mouvement appelé les anarchistes contre le mur en Israël a multiplié les actions collectives associant Palestiniens et Israéliens au moment de la construction du mur entre Israël et la Cisjordanie. Actuellement, il y a des manifestations en Israël, et c'est pas forcément si simple que ça de manifester en Israël actuellement. La répression, elle est sur les Palestiniens, mais elle est aussi sur les Israéliens qui manifestent contre la politique gouvernementale. Ces choix de lutte sont agrémentés également par le système des boycotts. On a vu que dans d'autres pays, ça avait pu marcher. On a redémarré un peu ça en France là, et en Europe, mais peut-être il faut augmenter encore le système des boycotts pour faire pression économique sur Israël, mais plus globalement sur les associés d'Israël. On en a parlé également tout à l'heure. il y a une force de contestation en Israël, en Palestine, y compris par rapport au Hamas, y compris par rapport au gouvernement israélien. Tout l'été de 2023, il y a eu de grosses manifestations, et comme par hasard, arrive le 7 octobre. Et beaucoup de personnes ont pensé que le 7 octobre aussi arrangeait aussi bien les tenants du Hamas que le gouvernement israélien. Je pense que la vraie piste, elle est sur les mouvements qu'il y a actuellement d'occupation de lieux stratégiques, d'espaces comme les places publiques. Et Alban le disait tout à l'heure, il y a quand même aussi des mouvements en Israël. Et il faut qu'on ait un regard et un échange avec ces personnes qui agissent aujourd'hui, parce que la seule solution qu'il y a, c'est que les Israéliens eux-mêmes arrivent à déstabiliser leur propre gouvernement. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui se mobilisent, y compris les personnes qui ont occupé la place publique pendant la nuit, la semaine dernière, sur Montpellier, parce qu'on a besoin de toutes ces mobilisations-là. Merci à vous.
Alors, ici, on s'est débrouillé. Là, on a imprimé assez rapidement des stickers. L'idée, c'est d'aller quand on va faire les courses au supermarché et qu'on repère un produit qui travaille avec Israël, l'entreprise travaille avec Israël, il faut taper au porte-monnaie, boycotter. Donc, on a fait ces petits stickers. Et ben, comme ça, repartez tous avec. Et quand on fait les courses, et ben, on y va, on envoie, quoi. Il y a un stand, on peut prendre les badges, les stickers. Tout doit disparaître, servez-vous.
De Gaza à Kanaki, fini le temps des colonies. De Gaza à Kanaki, fini le temps des colonies.
Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.
BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Ça a été lancé par la société civile palestinienne en 2005, suite à des dizaines d'années de lutte contre Israël et sa politique d'apartheid. Il y a des groupes un peu partout en France et l'idée étant de boycotter tous les produits venant d'Israël ou d'entreprises travaillant avec Israël. L'application No Thanks, avec un accent pourri, non merci, vous le téléchargez sur Google Play et c'est une application qui vous permet de scanner les QR codes et de vous dire si oui ou non c'est un produit qui tourne avec Israël ou pas.
Alors moi je voulais dire un mot par rapport à quelque chose qui m'a énormément choqué en tant que personne queer PD, c'est l'utilisation du drapeau arc-en-ciel par les soldats de Tsahal qui s'exhibent sur les réseaux sociaux avec ce drapeau qui représente les lesbiennes gays, bi et trans du monde entier. Pour réagir à ça, que je trouve une instrumentalisation horrible de transformer ce drapeau qui a à la base rien de colonial en un outil colonial, je propose de lire un texte, alors je suis désolé, il est un peu long, qui a été écrit par des queers palestiniens, qui s'appelle « Free Palestine Now, plaidoyer pour la libération ». Nous écrivons ceci en tant que travailleurs, étudiants, agriculteurs, parents, en tant que palestiniens, palestiniennes, queers. Non pas parce que notre identité queer nous procure une position d'exception, mais parce que de la même manière dont nous avons été marginalisés en tant que personnes queer, nous faisons aujourd'hui face à des tactiques patriarcales coloniales qui visent à marginaliser davantage nos identités de queer palestiniens. Pour rassembler nos mots, nos énergies, cela nous demande un effort immense. Nous sommes révoltés qu'au milieu de ces moments de brutalité spectaculaire et de carnage infligés au corps palestinien, y compris par le viol, par la torture et par la mutilation, nous soyons détournés de notre deuil et de notre propre organisation pour formuler une demande. Depuis le 7 octobre, nous sommes témoins d'un génocide accéléré qui se déroule dans la bande de Gaza et dans toutes les régions de Palestine, ouvertement et publiquement déclaré à de nombreuses reprises par plusieurs responsables gouvernementaux et militaires israéliens. La brutalité et l'amplitude létale des atrocités commises par l'État d'Israël et ses partisans créent des conditions de plus en plus épouvantables, celles et tous ceux qui restent en vie en Palestine, chaque jour, partout. Israël est fondé sur le sang et maintenu par le sang. En cette période, Israël instrumentalise les corps queer pour faire barrage à tout soutien à la Palestine. Les Israéliens, politiciens, organisations et civils mobilisent des dichotomies coloniales telles que civilisé et barbare, humain et animal, ainsi que d'autres binarismes déshumanisants dans le but de légitimer les attaques contre les Palestiniens. Israël cherche à obtenir le soutien des gouvernements occidentaux et des sociétés libérales
en se présentant comme une nation respectant la liberté, la diversité et les droits de l'homme, comme l'a clairement déclaré le Premier ministre israélien, en disant « Il y a un combat entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres, entre l'humanité et la loi de la jungle ». Pendant que ces déclarations ouvertement racistes et génocidaires occupent le devant de la scène, les activistes, ici en Palestine et à l'échelle internationale, sont réduits au silence, harcelés, placés en détention, criminalisés. Des travailleuses et travailleurs sont licenciés, des étudiantes et étudiants sont exclus de leurs universités. La réponse à cet appel ne peut se faire uniquement par le partage de tribunes et par la signature de lettres collectives. Elle doit s'accompagner d'un engagement continu auprès des luttes décoloniales et de libération en Palestine et dans le monde. Rejeter les financements sionistes, refuser de collaborer avec des institutions sionistes, rejoignez le mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions. Faites la grève, que cela soit silencieux ou public. Refusez que votre labeur soit exploité afin de réduire au silence le militantisme palestinien. Organisez des sit-ins dans votre gare centrale. Interrompez le flot du commerce. La complaisance est un choix. Nous, sous-signés, queer palestiniens et palestiniennes et alliés, nous sommes une partie intégrante de notre société. Voilà, de la part des queers en Palestine. Pour informer ceux qui ne seraient pas encore au courant qu'on organise une marche des fiertés féministes, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, etc. au Vigan le 22 juin et qu'on aimerait bien qu'il y ait des drapeaux palestiniens pour montrer l'opposition des luttes féministes et homosexuelles à ce qu'on appelle désormais le pinkwashing, à l'homonationalisme et au fémonationalisme en France comme en Israël.
Voilà, pour terminer là-dessus, deux petits rendez-vous. Donc en ce moment même à Montpellier, d'ici 13h30, aura lieu donc un rassemblement de soutien à José-Louis Moragues, qui est justement militant du comité de l'Hérault de BDS, donc boycott des investissements sanctions. Il est auditionné dans le cadre d'un dépôt de plainte de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, pour diffamation par rapport à une affiche dans laquelle il la traitait de complice par son silence. Ce sera donc devant l'hôtel de police aujourd'hui, avenue du comté de Melgueil, à 13h30. Et ce samedi 25 mai, donc une nouvelle action d'occupation est prévue sur la place de la Comédie. Ça sera toute la journée de 9h à 18h avec des stands et des animations en soutien à la Palestine qui seront mises en place. Et cela précédera le départ d'une manifestation à 18h appelée par l'interorganisation, toujours donc sur la place de la Comédie, puis dans les rues de Montpellier. C'est tout pour les nouvelles du monde d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bah voilà. Ciao, ciao sur Radio Escapade.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.